Docteur Christophe Massat, à partir de quel moment on accepte mieux ces émotions?
C'est très personnel.
Ouais.
Il n'y a pas de loi générale.
Ouais.
Il y a toujours la vision de l'évidence. Qu'est-ce qui va nous permettre d'accepter? C'est l'évidence. Quand on se rend compte avec évidence, mais oui, que quand je refuse, j'augmente ma douleur, je me fais mal, et que vraiment on le voit parce qu'on le sent, et qu'on voit, tiens, ben là, je commence à dire, oh non, c'est pas vrai, mais pourquoi, tatati, et qu'au bout de 5 minutes, on est dans un état déplorable, on voit, mais oui, de refuser, c'est désastreux. Mais il faut l'avoir vu maintes et maintes fois sur soi pour qu'à un moment, l'évidence nous crève les yeux. On dit, mais non, c'est plus possible, je me fais mal moi-même. Donc c'est ça, l'acceptation, c'est quand ça nous crève les yeux, qu'on dit, mais c'est stupide de refuser.
Et ce qui m'a vraiment aussi frappé dans votre livre, c'est que vous dites que pour rester refoulé, cette émission, lapsus, allongez-vous. Pour rester refoulé, cette émotion mobilisait en permanence une énergie que l'expression émotionnelle pourra libérer. Incroyable, ça, on peut récupérer cette énergie-là.
Ben oui, les gens qui répriment leurs émotions, ils sont tout le temps fatigués. Ils n'ont pas d'énergie. Pour maintenir comprimé un dynamisme, il faut dépenser une énergie supérieure à ce dynamisme. Si vous êtes pleine de colère, certaines personnes sont pleines de colère, de tout le temps ravaler leur colère, ça leur coûte énormément d'énergie. Donc c'est vrai que toute cette énergie qui est bloquée à la fois dans l'émotion refoulée et dans le refoulement lui-même, quand elle est dégagée, ben oui, il y a beaucoup plus d'énergie.
Alors, vous dites que les émotions donc, possèdent de nombreux visages, une variété infinie, une nuance d'ailleurs, mais en revanche que le nombre des émotions racines est très limité. Alors, c'est quoi une émotion racine? C'est la plus importante, celle qui repousse tout le temps ou...
C'est comme dans les couleurs, on a des couleurs fondamentales à partir desquelles toutes les nuances vont être développées. Ben, dans les émotions, on va retrouver au moins 4, voire 6 émotions fondamentales qui ont été repérées aussi chez les animaux, donc la colère, la tristesse, la joie, la peur, et auxquelles on peut ajouter le dégoût et la surprise, qui sont un peu la gamme des émotions les plus repérables à la fois dans le monde animal et chez les humains. Et après, effectivement, on va avoir des choses plus complexes, ou ce que j'appelle les émotions secondaires, comme la honte, le sentiment de culpabilité, on dit c'est un sentiment, mais pour moi ça appartient quand même au registre émotionnel, puisque dans le langage de Swami Prajnapada, le sentiment est toujours positif, n'a pas de contraire, donc c'est l'amour, c'est la sérénité, donc c'est sur un autre plan en fait.
Alors comment commencer ce travail vers plus de rapprochement vers ses émotions ou essayer de rentrer en contact davantage avec ses émotions? On commence par quoi, docteur?
C'est une prise de conscience. C'est s'observer dans le quotidien et voir qu'est-ce qui me fait réagir. En voyant ce qui nous fait réagir, on va se rendre compte au bout d'un moment où on a l'impression qu'il y a des tas de situations diverses, variées, qui nous font réagir. Mais si on commence à les regarder de plus près, on va se rendre compte que ce sont les feuilles d'une même branche. Et que peu à peu, on va se rendre compte, non, j'ai pas finalement 50 000 registres d'émotions différents en fonction des situations, j'en ai pas tant que ça. Et on va se rendre compte peu à peu qu'il y a quelques émotions, pas si nombreuses que ça, qui vont se compter plutôt sur les doigts d'une main pour quelqu'un, maximum. Qui vont se répercuter dans des domaines très différents. La même émotion, mais qui va prendre des visages, des apparences différentes. Mais en fait, c'est toujours la même chose.
Vous dites aussi qu'il faut calmer les stratégies du mental infantile. Qu'est-ce que c'est?
Plutôt les percer à jour, je dirais.
Oui.
C'est pas tant les calmer que les percer à jour, c'est-à-dire les voir pour ce qu'elles sont.
Les cerner, en fait, je voulais dire.
Oui, oui. C'est-à-dire vraiment les voir. Qu'effectivement, quand je pense comme ça, je suis dans un monde de l'enfance, où justement l'enfant, il veut toujours que le monde s'adapte à lui. Et donc, quand le monde ne s'adapte pas à lui, il va essayer, avec sa pensée, de tirer les choses dans son sens. Donc, soit en entretenant un imaginaire, soit en se racontant des histoires de différentes manières, en niant la réalité, en voulant forcer les choses. Bon, il va développer des manières de penser pour essayer de se rééquilibrer par rapport à une situation qui le déséquilibre, en fait.
Et ce travail amène donc vers cette acceptation dont on parlait au début. C'est difficile, ça, même vous dites, hein, il faut, c'est d'accepter l'inacceptable, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire.
Et oui, et là aussi, ça semble complètement paradoxal et voire contre nature. Mais c'est de voir, on en a vraiment une image dans les cauchemars. Quand on fait un cauchemar, souvent un cauchemar d'angoisse, on a l'impression qu'il faut absolument se soustraire à ce qui nous terrifie dans le cauchemar. Oui. Donc, on cherche à tout prix une issue, on court, on a envie de crier, on n'arrive plus à crier, on est paralysé, c'est horrible. Donc, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'ai fait moi-même cette expérience de comprendre, tant que je fuis, je cherche à fuir, et là, dans le cauchemar, c'est très concret, on cherche à fuir, ce qui me terrifie, ça me court après. Et j'ai vraiment fait l'expérience, une fois en cauchemar, d'un seul coup, d'avoir la conscience de me dire « Ah, mais non, arrête de fuir, demi-tour, fais face. » Et à ma grande surprise, j'avais plus peur. C'était une expérience très forte. Donc, l'inacceptable, nous avons l'impression qu'il faut le fuir à tout prix et que c'est là qu'on va trouver notre salut. Mais non, en réalité, quand on accepte, mais c'est pour ça que là, c'est toute une démarche, on ne peut pas commencer par ça. Aller demander à une mère qui vient de perdre son enfant, qui est pour la douleur maximum, de dire, allez, va droit là où tu as le plus mal. On va dire, mais non, il faut l'aménager. Et ce qui est humain est compréhensible. Mais si elle veut être libre un jour et ne plus traîner ça comme un boulet toute sa vie, eh bien oui, il est nécessaire d'aller là où ça fait le plus mal, pas par masochisme, mais parce que enfin on va être libre.
C'est de faire ça petit pas par petit pas.
Quand
très important.
Quand on est prêt, on n'est pas prêt d'emblée. C'est comme vous n'êtes pas prête, si vous n'avez jamais plongé, à monter directement au plongeoir de 10 mètres. Bon, certaines personnes vont le faire, mais c'est risqué.
Je vous propose de retrouver Alexandre Jolien qui parle des émotions lors d'une conférence, je crois en 2010, en Suisse.
Alors, Swamiji dit carrément « l'émotion est un luxe inutile ». Alors, il faut bien distinguer le sentiment, qu'est-ce que je ressens, et l'émotion qui nous entraîne, qui nous porte. Bien sûr, il y a une visée spirituelle là-dedans, il ne s'agit pas de dire à quelqu'un qui souffre l'émotion est un luxe inutile, mais voir que souvent l'émotion, elle nous décale de la réalité.
Alors, comment l'émotion décale de la réalité?
Si je reprends ce même exemple tellement fort d'une mère qui perd son enfant, le décalage maximum, certaines mères vont délirer et vont dire « mon enfant n'est pas mort ». Donc le décalage de la vérité, là, il est carrément évident. Mais nous, sans entrer dans le délire, nous sommes sans arrêt en décalage. Dès que nous sommes touchés, quelque chose nous fait mal, on va dire « non, non, pas ça, pas ça, pas maintenant, pas comme ça, ça ne devrait pas arriver, et pourquoi ?» Donc, nous protestons, en fait. Et donc, nous disons clairement, la réalité ne devrait pas être comme elle est. Donc, il y a un décalage. Bon, en même temps, ce décalage est humain. Avoir à s'adapter, c'est le vrai sens de l'adaptation, de vraiment pouvoir faire avec la réalité. Avoir à s'adapter positivement, pas subir vraiment positivement une situation qui nous dérange, qui nous déstabilise, qui nous fait mal. Ça ne se fait pas, encore une fois, d'un claquement de doigts. Oui. Mais là aussi, ça nous demande de nous rendre compte que tant que je reste en travers de la réalité en la refusant, eh bien, c'est comme si je me mettais en travers d'un courant puissant. Je suis en butte à des remous qui ne cesseront que quand je serai dans le sens du courant, en fait, que quand j'irai avec le sens du courant. Ben oui, cette femme, si elle a perdu son enfant, quand elle commence à dire « je suis terriblement triste, c'est la vérité, je suis désespérée », mais elle peut le dire parce qu'elle commence à dire « oui, il est mort ». Tant qu'elle dit « non, c'est pas possible, c'est pas possible », elle peut même pas être triste. Donc elle ne peut commencer à rentrer dans le sens du courant de la réalité. Il est mort et je suis désespérée. Et donc là, elle est dans le courant. Donc rentrer dans le courant ne veut pas dire ça ne me fait rien. Au contraire, c'est reconnaître pleinement à quel point on est atteint, parce que là, ben voilà, on va commencer à pouvoir cheminer avec le courant, dans le sens du courant, qui est, ben oui, c'est arrivé, et donc maintenant, il faut que j'aille avec, en fait. Mais encore une fois, le non initial, il est, dans la plupart des cas, absolument incontournable.
Et légitime.
Et compréhensible, humain.
Alexandre Jolien explique aussi dans sa préface que vous nous montrez comment, pas à pas, élargir notre cœur. Alors, on est à l'approche de la Saint-Valentin. Je ne pouvais pas éviter cette question. Quels sont les avantages à ouvrir notre cœur, à mieux aimer ?
C'est un élargissement justement au sens d'un intérêt plus vaste. Au départ, nous avons un intérêt étroit, moi, mes histoires, moi d'abord, est-ce qu'on va m'aimer, est-ce qu'on m'admire, est-ce qu'on me trouve intéressant, est-ce que je suis séduisante, est-ce que je plais, c'est moi. Donc l'autre, il est là en fonction de moi. Donc l'ouverture du cœur, c'est pas devenir béni, oui, c'est réaliser qu'en fait, il y a plus large que moi et que oui, c'est plus vaste, qu'il y a d'autres perspectives et qui sont beaucoup plus riches en fait. Que si je reste à tourner en rond autour de moi-même, c'est pauvre. Donc c'est plutôt ça, donc l'ouverture du cœur, c'est voilà, se rendre compte mais que je m'exclus moi-même si je suis fermé de toute une gamme de possibilités qui sont à portée de ma main.
D'ailleurs, votre livre aurait pu s'intituler « La voix du cœur ».
Oui, bien sûr.
Alexandre Jolien dit aussi que ce livre, « Souffrir ou aimer », est aussi précieux qu'utile. Il incarne le sens de la vie, son accomplissement. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la question que je pose chaque semaine à mes invités. Et quel est pour vous le sens de la vie, docteur Christophe Massin ?
Pour moi, il n'y a pas... Je ne sais pas s'il y a un sens général de la vie. Moi, je peux dire, peut répondre pour moi, que justement la possibilité de donner le meilleur de moi-même, voilà, de peu à peu libérer les entraves, justement ce qui est étroit, ce qui est étriqué, pour aller vers quelque chose de plus vaste et de plus libre, et qui me permet d'avoir le sentiment de partager avec les autres quelque chose de plus vaste et de plus riche. Oui, pour moi, c'est ça le sens.
Pour revenir sur le mot « libre » que vous venez de dire, j'ai souligné dans votre livre une référence à Swamiji qui dit que pour être libre, c'est être libre de la mère et du père.
Oui, il n'a pas dit de papa et de maman, de la mère et du père. Ça veut dire de la fonction, de tout ce qui fait de nous encore un enfant en fait. Dire être libre, c'est être totalement un adulte. Donc avoir vu en soi... tout ce qui reste de l'enfant, non pas lui avoir tordu le cou, pas du tout, mais ne plus être commandé par ça, ce qui n'est pas pareil. Donc il ne s'agit pas de supprimer l'enfant en nous, devenir adulte, c'est justement reconnaître ce qui en nous reste enfant et qui a tendance, c'est comme si vous laissiez votre fils de 4 ans conduire la voiture. Non, l'enfant de 4 ans ne doit pas conduire la voiture, mais il peut être dans la voiture.
Surtout dans la relation amoureuse.
Surtout dans la relation amoureuse, où c'est si l'enfant gouverne les choses, ça va vite poser des problèmes.
Donc tout ce travail sur les émotions permet cela aussi de sortir de la dépendance affective.
Voilà, parce que la dépendance affective, c'est moi, c'est pour moi.
Donc aimer, ça s'apprend ?
Ben, je dirais c'est plutôt que ça se désapprend de ne pas aimer.
C'est-à-dire
C'est-à-dire de se rendre compte qu'un certain nombre de manières d'être, de faire et de sentir vont contre l'amour. L'amour, en fait, on ne peut pas le produire. Il se manifeste, il émerge justement comme une source quand on a retiré les obstacles. Donc ce n'est pas « je me mets à aimer ». C'est que j'ai nettoyé en moi ce qui faisait obstacle à l'amour et l'amour peut couler, ce qui est différent.
Avant de se quitter, docteur Christophe Massin, pour les auditeurs qui auront envie de se plonger dans votre ouvrage, quels conseils pouvez-vous leur donner ? Comment doivent-ils aborder votre ouvrage ?
en le confrontant à leur expérience personnelle. Pour moi, c'est plutôt un livre qui doit être un compagnon qu'un livre à lire comme ça d'une traite, mais à lire un petit bout, voir comment ça résonne en soi, qu'est-ce qu'on retrouve de sa propre expérience et d'aller pas à pas comme ça.
Merci infiniment, docteur, d'être venu partager vos émotions, peut-être, et comment justement amener cette transformation de l'émotion par tout un travail et nous donner peut-être envie d'aller un petit peu plus loin dans cet accueil des émotions. Merci infiniment.
Merci.
Et oui, encore merci au docteur Christophe Massin d'avoir partagé avec nous le fruit de ce long travail de transformation des émotions. Alors si vous voulez approfondir le sujet, à lire « Souffrir ou aimer » paru chez Odile Jacob.